Ce groupe de jeunes, il y en a beaucoup qui sont absents ce matin. Alors, on était 26 vendredi soir dernier. Et ça tombait bien parce qu'on étudie le livre des Actes et il y a 26 versets dans le premier chapitre. Et chapitre 2, il y en a 47. Alors, comme on aimerait lire un verset chacun, vous pouvez penser à prier pour encore pour ce groupe de jeunes à qui il s'étoffe et puis que Dieu utilise puissamment ces jeunes. Je vous invite à chercher dans votre Bible le livre des Actes des Apôtres. Prenez vite place, s'il vous plaît. Je lis à partir dans le chapitre 1er, à partir du verset 13. Quand ils furent arrivés, ils reviennent du mont des Oliviers sur lequel le Seigneur vient d'être enlevé, ils reviennent dans la ville de Jérusalem, c'est tout près. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, il dit « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue « Akeldama », c'est-à-dire « chant du sang ». Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel des deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le livre des Actes est rempli de réunions de prière. Et on a le sentiment que la prière, en lisant le livre des Actes, que la prière est l'environnement de chaque événement. Au chapitre 4, quand les disciples persécutés après avoir guéri un paralytique au nom de Jésus se retrouvent, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, pour lui demander de les fortifier afin qu'ils continuent d'annoncer sa parole avec une pleine assurance. Au chapitre 7, en face de la mort, loin de s'abandonner au désespoir ou à la haine, Étienne prie. Il prie au verset 59. Seigneur Jésus, « Reçois mon esprit !» Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché !» Et après ces paroles, il s'endormit. Chapitre 9, Saul de Tarse à Damas, sur la route de Damas. Et au chapitre 10, le païen Corneille prie pour recevoir de la lumière. Dans le chapitre 10, c'est lorsque Pierre est en prière qu'il reçoit cette vision de la nappe avec les animaux qui descend vers lui. Vision qui le prépare à se rendre chez Corneille et à ouvrir la porte de l'évangile aux païens. Au chapitre 12, alors que Jacques vient d'être exécuté et que Pierre, emprisonné, doit être exécuté lui-même le lendemain, une réunion d'intercession se tient dans la maison de Marie. Et je cite, « où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient ». Pierre est miraculeusement délivré, il rejoint les frères et sœurs dans cette maison. Au chapitre 13, c'est pendant la réunion de jeûne et prière que le Saint-Esprit donne son orientation missionnaire à l'église d'Antioche. C'est dans la prière que les frères consacrent Paul et Barnabas pour ce nouveau ministère. Et c'est aussi de cette manière, dans la prière, que les frères de Jérusalem avaient consacré les premiers diacres dans l'église de Jérusalem au chapitre 6. Au chapitre 14, Paul et Barnabas ne quittent pas leurs jeunes convertis sans avoir jeûné et prié avec eux. Au chapitre 16, dans la prison de Philippe, Paul et Silas utilisent la prière comme remède à la tristesse et au découragement. Quand il prend congé des anciens d'Éphèse, au chapitre 20, il se met à genoux et pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes parce qu'ils ne reverraient plus son visage. C'est également sur leurs genoux et dans la prière que dans le chapitre suivant, chapitre 21, il se sépare des frères et de ses amis sur la plage de Tyr. Et je relève le verset 5 ici, les paroles de Luc, le compagnon d'œuvre de Paul. Il dit « Tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. » Voyez-vous, les premiers disciples priaient dans toutes les circonstances. Tout ce qu'ils font est préparé, accompagné ou suivi par la prière. On relate au moins 11 réunions de prière dans le livre des Actes. Et j'aime celle-ci où tous, hommes, femmes, enfants, sont sur leurs genoux pour se recommander à la grâce de Dieu. La vie de prière, la réunion de prière de l'église locale, c'est probablement une des réunions les plus importantes. Imaginez ce que l'église de Christ vivrait si elle continuait à vivre de la sorte. La réunion de prière, c'est l'endroit désigné pour encourager un peuple abattu. On va voir ce matin que c'est aussi un endroit désigné pour recevoir la direction du Seigneur. Et puis on verra enfin que c'est l'endroit désigné pour recevoir la puissance du Seigneur. Tout d'abord, la réunion de prière, c'est l'endroit désigné pour encourager un peuple abattu. Imaginez ce que les disciples pouvaient ressentir après l'ascension du Seigneur Jésus. C'était une armée sans général. C'était un troupeau sans berger. C'était une famille sans père. Cette semaine, Apple, la société Apple, a perdu son leader, Steve Jobs. Vous avez certainement entendu cela. Il était le fondateur de cette société. Il était un innovateur extraordinaire. C'était le concepteur de Macintosh. C'était l'inventeur de la souris. C'était l'inventeur des polices d'écriture, design, que l'on peut trouver sur nos ordinateurs aujourd'hui. Après avoir commencé dans le garage de ses parents, il a fondé un empire. Puis il s'est adjoint un autre homme pour co-diriger cet empire. Mais après quelques temps de fonctionnement, leurs avis ont divergé sur la conduite à tenir pour la société. Et le conseil d'administration a tranché, ils ont conservé cet homme et ils ont viré Steve Jobs. D'abord un peu décontenancé, quand vous êtes fondateur, ça doit être assez difficile. Il s'est relevé et a fondé la société Next, et puis aussi Pixar, société qui a créé et développé les premiers films entièrement réalisés sur ordinateur. Les enfants connaissent Toy Story en particulier. Parallèlement, Apple a commencé à dégringoler. Et puis, quelques années plus tard, ils ont rappelé Steve Jobs à la tête de la société. C'est là qu'ils ont développé une nouvelle génération d'ordinateurs, design. Puis l'iPod, puis l'iPhone, puis l'iPad. Tous ces objets sont devenus les choses les plus courantes de nos vies. Et il a influencé le monde entier de la sorte. Mais atteint d'un cancer du pancréas, il vient de mourir âgé de 56 ans. Le monde entier s'est ému de sa disparition. Je suppose que les salariés d'Apple se sentent un peu comme décapités, privés d'un leader capable de les conduire, un leader capable d'innover, de faire progresser l'univers de l'informatique, peut-être la crainte pour leur propre emploi, pour leur propre société, à gagner leur cœur. Imaginez ce qu'a pu être la chose avec le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, les disciples sont exposés à de nombreux dangers. Ils n'ont plus le Seigneur pour parler à la tempête et calmer la mer. Ils sont comme un troupeau de brebis sans berger. Et la nuit vient. Et ils entendent le loup. Et alors, comme d'une manière instinctive, les brebis se rassemblent, se réunissent, se collent les unes aux autres. Les disciples se réunissent de la même manière. Ils aiment à être ensemble. Et s'ils doivent mourir, ils voudraient mourir ensemble. Ils veulent être ensemble et partager leurs difficultés et les confier à leur Seigneur. Voilà une leçon que nous devrions retenir. La valeur extraordinaire de la réunion de prière. Lorsque les ténèbres couvrent l'Église, lorsque le pasteur est rappelé auprès du Seigneur, ou qu'il est difficile de trouver un successeur, ou quand il y a des désaccords, des divisions, ou lorsque la mort ou l'épreuve frappe un membre de l'Assemblée, quand il y a une sécheresse spirituelle au milieu de nous, quand le Saint-Esprit semble s'être retiré, alors il n'y a qu'un seul remède, contenu dans un seul mot. Prions. Prions. En venant ainsi au Seigneur, les cœurs effrayés, les cœurs découragés, les cœurs blessés ou desséchés, alors retrouvent la vie, changent la défaite en victoire. Oui, la réunion de prière, elle est utile pour encourager les cœurs découragés. Combien sont venus dans nos réunions le mardi soir avec un poids sur le cœur, avec une souffrance dans leur vie. Ils ont pu la décharger avec leurs frères et sœurs au pied du Seigneur et ils ont trouvé la victoire. Ils ont trouvé le secours dont ils avaient besoin. Combien sont venus complètement déboussolés, frappés par l'épreuve, et puis ils ont trouvé dans la communion avec les frères et sœurs le secours pour repartir. Le fait d'avoir déchargé tout fardeau au pied du Seigneur. Combien la réunion de prière, elle est importante, elle est une clé pour notre vie d'Église. Et puis, c'est l'endroit désigné pour recevoir la direction du Seigneur. Jésus leur avait dit d'attendre, là, à Jérusalem, d'attendre la puissance dont ils avaient besoin. Il avait dit d'attendre, mais sans fixer la durée de l'attente. Et à mesure que le temps passe, ils se demandent si tout est prêt pour le moment où viendra le Saint-Esprit. Je crois que dans la prière, il y a dans nos cœurs cette expectative, cette attente de voir l'intervention du Seigneur, de goûter à son intervention. Et cette expectative nous pousse à mettre nos vies et nos situations à plat, devant lui. Et la question qui vient à notre esprit, c'est qu'est-ce qui pourrait empêcher Dieu d'agir? La Bible nous dit, ici au verset 15, dans notre premier chapitre des Actes, « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. » En ces jours-là. Ça signifie, entre cette période-là, entre l'ascension du Seigneur Jésus et puis la Pentecôte, dans ces 10 jours de prière et de communion entre croyants, Pierre s'est levé au milieu des 120, et puis il revient sur ce qui s'est passé, et notamment sur la trahison de Judas. Et là, dans ces temps de prière, il comprend qu'il fallait que toutes ces choses se passent ainsi, comme le Saint-Esprit l'avait annoncé dans les psaumes par la bouche de David. Il dit, verset 16, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, a annoncé d'avance par la bouche de David. » Mais quand? Quand est-ce que David a parlé de Judas Iscariote dans les psaumes? Il ne l'a pas nommé. Il ne l'a pas désigné directement. Mais dans les psaumes, le Messie est présenté comme le roi idéal. Et quand David parle des ennemis du roi, il annonce aussi les ennemis qui s'élèveront contre le fils de David, le Messie. Dans la prière, les paroles de Jésus prononcées quelques jours auparavant, dans cette même chambre haute, après leur avoir lavé les pieds, ces paroles citées par le Seigneur Jésus reviennent à l'esprit de Pierre. J'imagine, regardez au chapitre 13 des Jean et au verset 18, il dit, il vient de leur laver les pieds, il leur dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et au verset 18, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. Le Seigneur a cité les paroles de David dans le psaume 41, verset 10. Pierre comprend qu'il fallait que s'accomplissent les Écritures concernant la trahison de Judas. C'est rassurant pour tous les croyants de savoir que les choses s'accomplissent selon le plan parfait de Dieu. Et nous sommes les témoins, au fond, de l'œuvre que le Seigneur accomplit. D'autres passages dans les psaumes lui reviennent probablement à l'esprit. Je pense notamment à ce passage dans le psaume 55, verset 13. Ce sont les psaumes où il parlait des trahisons. Il est dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Et ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. J'imagine que David fait probablement référence à Achitophel, son ami et conseiller, qui l'avait trahi lors de la révolte d'Absalom. Mais encore, c'est la trahison de Christ par Judas que David prophétise ici. Et puis, il cite dans le psaume 69, le verset 26, où il est dit « Que leur demeure soit dévastée », c'est un psaume d'imprécation, « qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente ». Et puis, encore, au psaume 109, le verset 8, « Qu'un autre prenne sa charge. » Et là, dans la pensée de Pierre, il dit « Ok, tout est clair. Les choses étaient annoncées. Il fallait que Judas trahisse. Il fallait qu'il meure. Il fallait que sa maison soit dévastée. Et il faut aussi que quelqu'un prenne sa charge. » Tout cela, ça s'est produit dans la prière. Et il conclut, il faut donc qu'il y ait un autre frère qui nous soit associé comme témoin de la résurrection de Christ. C'est dans la prière que Pierre trouve la réponse à ses questions. C'est dans la prière qu'il comprend les Écritures, et notamment les psaumes. C'est dans la prière qu'il trouve la direction pour avancer avec ses frères qui sont quelque peu déboussolés par les derniers événements. La page Judas allait définitivement être tournée. Ils allaient avancer à nouveau et avancer à 12. C'est encore dans la prière que se fait le choix du 12e homme, un compagnon de la première heure et témoin oculaire de la résurrection de Jésus-Christ. Il est dit que les disciples tous ensemble ont prié « Seigneur, désigne lequel de ces deux tu as choisi ». La prière, au fond, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu, de Christ, pour diriger nos vies. Je lis un livre en ce moment sur la biographie ou des éléments biographiques de Georges Verwer. Il est le fondateur d'Opération Mobilisation. C'est un homme qui s'est converti en 1955. Il s'est rapidement engagé dans le service de Dieu et pour mieux le faire, il est allé se former à l'Institut biblique de Moody à Chicago. Il est un homme zélé, incroyablement zélé pour l'Évangile. Et il était particulièrement préoccupé par l'annonce de l'Évangile dans les pays qui étaient fermés. Il s'est donc rendu en Union soviétique. Et il a fait rentrer dans l'ex-URSS clandestinement des évangiles et puis une presse à imprimer. Mais après quelques jours, après une erreur de leur part, ils se sont fait prendre et ont été expulsés manu militari. Quand vous êtes expulsé d'Union soviétique à l'époque, vous n'avez aucune chance d'y retourner. Alors il était complètement décontenancé. Pour lui, c'était un échec cuisant. Alors, Georges Verwer raconte dans un de ses livres, « J'ai pensé qu'il était temps de prier. Alors j'ai grimpé dans un arbre pour être seul et j'ai prié. » Il ne fait rien comme nous. Hein. « J'ai passé la journée en prière. Ce jour-là a bouleversé ma vie et mon ministère. Dieu m'a montré que ma vision était beaucoup trop limitée. Et que ma tâche consistait à mobiliser l'Église en commençant par l'Europe. Comment ? Par des voyages missionnaires à court terme. C'était en 1961. Et OM venait de naître. L'été 62, ils ont recruté 200 volontaires pour aller apporter des Bibles et témoigner de l'Évangile de Jésus-Christ dans les pays fermés. L'été 63, ils avaient 2000 participants qui allaient distribuer 25 millions de traités en Angleterre. Et les choses ont continué d'année en année. Oui, la prière, c'est l'endroit désigné pour recevoir la direction du Seigneur. On a besoin de direction dans l'Église. On a besoin de comprendre la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on est à l'étroit. Dans nos locaux, on réfléchit comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, notre prochaine Assemblée Générale, ce sera pour évoquer ces questions-là. Mais on ne voudrait pas avoir à prendre des décisions sans avoir pris du temps dans la prière, sans avoir demandé au Seigneur sa direction et comprendre sa volonté pour nous. Il est le chef, il est le général de l'Église. Il est le capitaine de l'armée. Il est celui qui peut nous diriger parfaitement. Lui seul est capable de le faire. Lui seul a formé des plans. Et on a besoin de comprendre sa direction. Et c'est ce que nous voulons pour ces jours-ci. Que Dieu nous accorde de comprendre ses desseins, sa volonté. Je vous engage, mes frères, mes sœurs, à prier, à intercéder dans vos réunions ensemble, dans vos familles, mais aussi entre frères et sœurs, ou tout seul dans votre culte personnel, d'intercéder et de demander à Dieu de révéler sa direction. On a besoin de la direction du Seigneur pour le groupe de jeunes. Ils ont à cœur de servir le Seigneur et de faire connaître l'Évangile. Ils sont partis au Venezuela, ils sont partis en Haïti. Ils voudraient œuvrer en France l'année à venir. La France, c'est un champ qui est tellement vaste. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de possibilités, peut-être. Il y a tellement de voies. Seigneur, on a besoin de comprendre ta volonté, on a besoin de comprendre tes desseins, on a besoin de que tu nous révèles les plans que tu as préparés d'avance pour que nous y entrions. Et le groupe de jeunes s'engage à prier pour cela. Et on vous demande de les soutenir, de les secourir dans vos prières pour que Dieu révèle sa volonté, son dessein. Enfin, la réunion de prière, c'est l'endroit désigné pour recevoir la puissance du Seigneur. Dans le livre des Actes, le début du chapitre 2 dit « Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont été couverts pendant leur réunion de prière, pendant ce temps qu'ils passaient dans la chambre haute, ils ont été couverts de la puissance que Jésus-Christ leur avait promise en Actes chapitre 1, le verset 8. Il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ça fait toute la différence. Ça a fait toute la différence. De simples pêcheurs de Galilée sont devenus les extraordinaires messagers du ciel. Ils ont fait connaître avec assurance les merveilles de Dieu. Le résultat a été que le vacillant Pierre est devenu comme un jeune lion, plein d'assurance. L'impétueux Jean, qui réclamait que le feu du ciel descende et consume un village de Samaritains, a été lui-même rempli d'un feu, mais cette fois-ci non pas pour consumer, mais pour bénir, pour secourir ces mêmes Samaritains. Si nous voulons connaître cette puissance, c'est encore dans la réunion de prière que nous la trouverons. Ils avaient entendu l'ordre du Seigneur, « Allez et faites de toutes les nations des disciples !» Mais ils mesuraient leur fragilité. Ils mesuraient leur faiblesse. Ils voyaient leur petit nombre, leur manque de connaissances, leur manque d'instruction. Bref, ils étaient convaincus de leur impuissance. Et ils ont prié. Ils ont prié. N'ayant rien pour accomplir les œuvres de Dieu, ils lui ont tout demandé. Et Dieu a répondu en envoyant le Saint-Esprit, la puissance pour être un témoin de Christ à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que nous voulons. Ce qui est frappant dans la prière que l'on trouve dans les Actes des Apôtres, c'est l'absence de préoccupation personnelle. Les disciples ne se soucient pas vraiment de leurs intérêts, mais ils se soucient constamment des intérêts de Jésus-Christ. Ils le prient de remplir le vide causé par la trahison de Judas. Persécutés, ils ne demandent pas la fin de leur souffrance, mais bien plutôt d'être rendus capables, d'être remplis d'assurance dans leur témoignage et la manifestation de la gloire de Dieu. Étienne, mourant, intercède pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur !» Ne leur impute pas ce péché. Pierre et Jean, arrivés en Samarie, prient pour les habitants de la ville. Pour des Juifs, c'est la révolution intérieure. Il est naturel que nous demandions au Seigneur des grâces dont nous pouvons avoir besoin. Mais ça ne doit pas être au centre de notre intercession. Jacques dit, dans son épître, au chapitre 4, verset 3, « Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Nous n'avons pas besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour avoir un travail, pour avoir une bonne santé, un logement qui va bien et des enfants qui travaillent bien à l'école. Mais nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu, pour être les témoins du Seigneur Jésus-Christ, y compris dans notre travail, y compris à la maison, au milieu de nos enfants. Qui est au centre de vos prières? Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre? Je vois que ceux qui se préoccupent de l'avancement de l'œuvre de Dieu et qui veulent le faire pour la gloire de Dieu réclament les bonnes choses au Seigneur et il les exauce en les remplissant de son Esprit Saint pour faire son œuvre. Je suis excité par le début de l'étude du livre des Actes parce que je vois combien un tel livre ramène les vraies priorités dans l'Église. Je suis heureux et je rends grâce à Dieu pour chaque réunion de prière, chaque occasion où les enfants du Seigneur se placent devant sa face pour déposer à ses pieds leurs fardeaux, leurs craintes, leurs combats, chaque réunion pour intercéder pour les missionnaires et pour leurs épouses, chaque rencontre où on lui demande sa direction, son conseil, sa puissance, son secours, chaque culte où on célèbre la gloire de sa grâce et son nom glorieux. Je suis persuadé que l'avancement de notre Église est dû à la fréquentation assidue de ces réunions de prière. J'en suis convaincu. Et je sais que l'œuvre va progresser encore. Que nos réunions aient lieu à 2 ou à 3, qu'elles aient lieu à 10 ou à 40 ou à 150, que Dieu révèle ses plans, qu'il rassemble son troupeau, qu'il le console, qu'il l'encourage, qu'il le dirige, et puis qu'il le remplisse de son Saint-Esprit pour qu'on puisse avancer avec courage pour être les témoins du Seigneur. Alors, approchons-nous humblement de lui. Prenons notre part dans chacune de ces réunions, autant que cela nous soit possible. Élevons nos voix. Apprenons à prier pour ce qui préoccupe Jésus-Christ. Sa puissance nous sera alors donnée pour accomplir son œuvre. Que Dieu vous bénisse. Prions. Éternel, notre Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu vivant, le ressuscité, celui-là seul qui peut nous protéger, nous garder, celui seul qui peut prendre soin de nous dans tous nos tracas, dans toutes nos difficultés, dans tous nos combats. C'est en toi seul que l'on peut trouver la victoire. Seigneur notre Dieu, c'est toi seul qui est le dirigeant de ton Église. Toi seul qui es le leader, le chef, le souverain berger. Et Seigneur notre Dieu, nous avons besoin encore de ta direction. On a encore besoin de ton conseil. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur notre Dieu. Et nous te demandons que dans les choix que nous avons à faire, les décisions que nous avons à prendre, tu viennes nous diriger, nous conduire. Rappelle-nous toute la parole, tous les enseignements que tu nous donnes. Rappelle-nous tout ton conseil et accorde-nous, Seigneur, ta sagesse. Dirige ces jeunes dans leurs décisions, dans leurs choix. Convainc-les, Seigneur, par ton Esprit Saint et par ta parole, qu'ils sont dans la bonne direction. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, d'agir encore dans nos cœurs. On a besoin de puissance. On a besoin d'être secouru. On voit bien notre petit nombre, on voit bien notre fragilité, on voit bien notre imperfection, on voit bien la crainte qui peut si facilement gagner nos cœurs. On te demande, Seigneur notre Dieu, que tu nous fortifies, que tu nous remplisses de ton Esprit Saint, Seigneur, que tu laisses en nous rien qui soit desséché, rien qui ne soit pas visité dans notre vie par ton Esprit Saint. Que Seigneur, accorde-nous la vie qui va avec nos prières. Nous te demandons pour que tu nous bénisses, Seigneur, les lundis avec le groupe des cœurs de sœurs, le mardi soir dans notre réunion de prière et d'études bibliques, le mercredi peut-être de temps en temps avec Caleb, le jeudi dans la réunion de jeûne et prière ou dans le groupe découverte, le vendredi avec le groupe de jeûne. Ô Seigneur notre Dieu, nous te demandons pour que tu agisses, Seigneur, au milieu de nous. Que le dimanche, Seigneur, nos cœurs soient remplis de toi pour célébrer ta gloire. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, que tu fasses toutes ces choses dans nos vies, pour que ton nom soit élevé et glorifié, pour que le monde connaisse le grand salut que tu nous as accordé, que nous soyons tes témoins tout le restant de la semaine, Seigneur, dans nos familles, dans notre travail, Seigneur, dans notre voisinage. Seigneur, secours-nous, te le demandons. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Pour la gloire de ton nom, Seigneur notre Dieu, nous te prions. Par Jésus-Christ. Amen.